d'abord, bienvenue à vous. Merci d'être là, merci de prendre du temps pour cette réflexion sur la Bible. Comment lire la Bible ? Entre le respect du texte et l'interprétation, quelle vérité se donne ? Voilà. Donc, merci à vous d'être là. Je sais que c'est une période où il y a beaucoup de propositions, beaucoup de choses. Même à la télé, il y a des choses qui retiennent beaucoup. Donc, la concurrence est dure et forte. Donc, bravo d'autant plus à vous d'être là. Merci vraiment. Lorsque nous avions fait le planning annuel, nous n'avions pas les programmes de télévision en main. Voilà. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cycle. Ça va, la leçon ? Ça va ? C'est bon, vous me dites, hein, si à un moment ou à un autre, ça ne va plus. Cette conférence, elle s'inscrit dans notre cycle sur l'année à partir des comment. Comment, de fait, vivre notre foi chrétienne dans les différents domaines de notre foi et ce soir sur le plan de la Bible. Comment faire pour que la lecture de la Bible soit porteuse et comment se positionner, parce que le texte biblique, on a envie bien sûr de le respecter, c'est le sens de du titre. Et en même temps, l'Église nous dit que c'est important de l'interpréter, que le texte, il n'est surtout pas à prendre comme ça, à brûle-pourpoint, au pied de la lettre, mais nous avons à nous impliquer dans un travail d'interprétation. Donc au total, comment est-ce qu'on peut porter la question de la vérité ? Il nous arrive tous d'être un petit peu gênés par cette question, se dire après tout, quelle est la vérité dans la Bible ? Est-ce qu'il y a des indications qui sont fiables, vérifiables au niveau de la vérité ? Comment est-ce qu'on peut rendre compte des éléments qui sont dans la Bible sans imaginer tordre l'information par une opération d'interprétation ? Et donc, on a quelquefois un petit peu du mal à faire la part des choses entre les deux, et on l'entend très souvent, non seulement pour chacun de nous sur notre chemin de foi, mais aussi souvent par rapport aux questions qu'on nous pose. Comment rendre compte de la vérité dans la Bible ? C'est quoi, en fait, cette vérité qui est là dans le texte ? Alors, je vous propose une réflexion, j'espère le plus simple possible, hein, mais quelques pistes. Tout d'abord, après une introduction, je voudrais qu'on regarde, qu'on se redise en quelques mots tout compte fait la Bible. C'est quoi ? Question tout à fait banale, question toute simpliste, simplette même, mais ça vaut peut-être le coup de se redonner deux, trois éléments par rapport à cela. Lecture et interprétation, où en sommes-nous ? De l'acte de lecture et d'interprétation, comment est-ce que les deux s'articulent ? Comment prendre les éléments qui sont dans le texte biblique et les interpréter ? Comment lire le texte et entrer dans une démarche d'interprétation ? Est-ce que ce ne sont pas des opérations d'élucubration ? Hein ? Ou est-ce que, non, on a vraiment à faire ce travail d'interprétation ? Jusqu'où et comment ? Et puis, troisième moment, je voudrais avec vous que nous nous resituions devant la révélation en Jésus-Christ et que l'on voit qu'en fait, de vérité, le Christ, c'est lui qui nous donne la réponse. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas parler de vérité dans la Bible sans tenir compte de cela. La vérité, c'est pas la connaissance. La vérité, c'est pas quelque chose de vérifiable au plan scientifique. C'est tout ça, mais c'est plus que cela. C'est une personne, en la personne de Jésus-Christ, et on verra quel impact sur l'attitude ou la posture de lecture de la Bible. Voilà. Alors, en introduction, je voudrais juste rappeler deux ou trois petites choses. Nous avons à découvrir que nous ne sommes pas la religion du livre. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement à ce que certains voudraient nous faire dire ou nous enfermer, ce dans quoi ils voudraient nous enfermer. Nous sommes une religion de la parole. Que de fait, il s'agit de découvrir que le texte biblique ne donne pas immédiatement une parole. Ce n'est pas spontané que le texte biblique donne une parole. Et nous avons besoin de découvrir qu'il y a un écart entre les deux. La Bible n'est pas une réserve de textes qu'il faut prendre au pied de la lettre et n'est pas une réserve, un réservoir de recettes toutes faites, notamment en morale. Et de fait, il va s'agir d'entrer dans ce processus de transformation du texte biblique à une parole qui va de fait nous impliquer, qui nécessite que on prenne à bras le corps, on se prenne à bras le corps pour attaquer ce monument, qui est le texte biblique monument. Bon, enfin, regardez, tout compte fait, c'est pas si gros que ça. Si, quand même, déjà pas mal. Hein. Donc, voilà, disons-nous bien que nous avons de quoi entrer dans cette dynamique de la Bible à la parole. Vous m'avez déjà entendu le dire, mais je recommence. Lorsqu'on ouvre la Bible, interdiction de dire « on va lire la parole hein ». Ça veut rien dire. On ne lit pas une parole, on lit un texte, mais on écoute une parole. On lit un texte pour que on soit en capacité d'écouter une parole. Encore faut-il que dans la lecture du texte ou de la lecture du texte sorte ou émerge une parole qu'il s'agit d'accueillir, d'écouter, puis après de mettre en pratique. Et en liturgie, c'est bien clair. Quand on lit le texte biblique, quand on lit la première lecture, on dit bien lecture du livre du premier livre des rois, lecture de la lettre de saint Paul, etc. Donc c'est un écrit. Et après, une fois que ça a été proclamé, écouté, entendu, proclamé à l'oral, et donc écouté, ça devient alors une parole, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus, même chose pour l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Intel, c'est une lecture qui à la fin devient parole. Parce qu'elle a été proclamée en site liturgique, parce qu'elle a été accueillie par l'écoute. Donc il y a bel et bien ici à distinguer entre Bible et parole, et est-ce que dans cet acte de transformation du texte à la parole, et est-ce qu'il y a un respect du texte, dans quelle mesure est-ce qu'on ne le dénature pas, et dans quelle mesure la vérité se donne-t-elle malgré cet acte ou au cœur de cette transformation? Alors avant toute chose, qu'est-ce que la Bible? Mais de fait, quelques petits éléments, là vous n'allez rien apprendre, mais ça vaut le coup peut-être de se le redire entre nous tout simplement. Tout d'abord, n'oublions pas, qu'est-ce que la Bible avant toute chose? C'est d'abord la mise par écrit, c'est ce que je mets dans le point 1.1, la mise par écrit de l'histoire, d'une histoire, mais pas n'importe laquelle, de l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que le texte biblique n'est pas là pour raconter l'histoire tout court de l'humanité. Elle est là, elle a été mise par écrit pour raconter l'histoire d'une relation entre Dieu et les hommes. C'est tout autre chose que dire c'est l'histoire du peuple hébreu, c'est l'histoire des premiers chrétiens, c'est l'histoire de Monsieur Jésus de Nazareth qui a vécu il y a 2000 ans. C'est autre chose, on n'écrirait pas de la même manière s'il s'agissait de rapporter les faits et gestes de Jésus d'il y a 2000 ans. Ça, Renan a essayé de le faire avec la vie de Jésus et tant d'autres depuis. Le texte biblique ne prévoit pas cela, ce n'est pas son projet. Son projet, c'est bel et bien. Sinon, vous avez des encyclopédies bien faites pour ça, qui vont rapporter les grandes dates du peuple hébreu, les grandes dates de telle ou telle civilisation, les grandes dates des premiers chrétiens. Donc, allez regarder les encyclopédies, ça fera tout à fait l'affaire. Ce n'est pas ça dans la Bible. Dans la Bible, et rappelons-le, c'est bel et bien la mise par écrit de l'histoire d'une relation entre Dieu et les hommes, et tant qu'à faire une relation de type alliance. Ça a déjà une connotation théologique, c'est-à-dire un projet que Dieu a de se lier, alliance, de se lier avec des hommes, avec les hommes, avec l'humanité entière. Et puis, qui dit alliance, dit proposition, puisque c'est Dieu qui prend l'initiative, et les hommes répondent plus ou moins bien, répondent oui ou non à cette proposition d'alliance. Et dans la Bible, c'est bel et bien cette histoire des nombreuses et successives propositions d'alliance que Dieu fait aux hommes, à l'humanité, et cette histoire marqué par le fait que les hommes de temps en temps ont répondu oui, puis de temps en temps ont mal répondu oui, puis de temps en temps ont carrément répondu non, les ruptures d'alliance. C'est comme ça qu'on a la manière de sceller l'alliance avec le signe par exemple de l'arc-en-ciel à la fin du récit de Noé. Donc là, maintenant j'établirai mon alliance avec vous les hommes. Bon, et puis c'est comme ça qu'on a Exode 32, le fameux deux épisodes du veau d'or où on apprend que les hommes ont carrément rompu l'alliance parce que comme ils s'impatientaient, ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, la peur a pris le dessus et résultat, ils se sont tournés vers une divinité qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, c'est le veau d'or.